Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 016 TTC proposés par le CNBA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabagne, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission est comme le Mucem, un pavé dans la mer. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier.
Les laboratoires pharmaceutiques se font-ils de l'argent sur le dos des balades ?
Cet épisode me touche à titre personnel car, depuis 2005, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le diabète. Alors je ne vais pas vous parler de mon vécu, je suis là pour produire une analyse économique. Mais ça fait 13 ans que je suis diabétique et donc ça fait 13 ans que je regarde très attentivement l'économie qui existe derrière cette maladie. Et je me suis rendu compte que ce secteur est en fait très représentatif de l'économie de la santé d'une manière générale, notamment en ce qui concerne les pratiques des laboratoires pharmaceutiques. Ces entreprises ont été secouées ces derniers temps par de nombreux scandales, comme l'affaire Mediator, celle du sang contaminé, l'affaire des Paquines, etc.
Une démarche inédite en matière de santé publique, des centaines de familles vont tenter de faire reconnaître la responsabilité du laboratoire Sanofi dans l'affaire dite de la dépaquine.
Les faits remontent à mai 83, où l'on apprend que le virus du sida est transmissible.
Je ne suis même pas cardiologue, et avec les moyens d'un pneumologue de province, j'ai pu démonter cette tromperie et prouver la toxicité du Mediator.
C'est sans doute un nouveau scandale sanitaire concernant les effets secondaires d'un médicament, le dépaquine.
Chaque affaire est symptomatique en soi et mériterait des approfondissements. Mais laissons de côté ce qu'on appelle les dérives du système et analysons le système en lui-même en prenant comme exemple le diabète. Tout d'abord, expliquons en quoi consiste cette maladie qui touche 3,5 millions de personnes en France. Celui qui en parle le mieux est sans doute Bertrand Burgala. Il est musicien, auteur-compositeur, producteur et diabétique depuis 1975. Il raconte son expérience personnelle dans un ouvrage intitulé « Diabétiquement vôtre » publié en 2015 et dans lequel il mène également une enquête plus large auprès de tous les acteurs importants de ce secteur.
Eh bien, le diabète, c'est principalement deux maladies très différentes qui ont un point commun qui est le pancréas et le sucre. Mais dans le diabète de type 2 qui est le plus répandu, eh bien, vous avez ce pancréas qui a du mal à délivrer de l'insuline, l'hormone, et qui permet au sucre d'être absorbé par l'organisme. Et donc c'est un diabète, le diabète de type 2, qui est lié très souvent quand même, à la fois qu'il peut avoir des facteurs héréditaires, mais qui est quand même très comportemental aussi, qui est très lié à la société actuelle, au mode de vie, à une forme de sédentarité, à l'alimentation actuelle. Et puis vous avez le diabète de type 1, qu'on appelait avant diabète juvénile ou diabète insulino-dépendant, qui se déclenchait, même si maintenant il y a de plus en plus d'adultes, mais principalement à l'enfance et à l'adolescence, qui est très différent parce que ce n'est pas le pancréas qui a du mal à délivrer l'insuline, il détruit les cellules complètement qui délivrent cette insuline. Et donc le diabétique atteint le diabète de type 1, ça n'a rien à voir avec son comportement, c'est-à-dire que si on ne lui injecte pas de l'insuline, bien, en quelques semaines ou quelques mois, il meurt.
Pour simplifier, le protocole de soins d'un diabétique se résume à deux actions. Premièrement, mesurer son taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Et deuxièmement, agir sur ce niveau de sucre avec de l'insuline ou de la nourriture pour obtenir le niveau souhaité. Par exemple, si la glycémie est trop élevée ou que c'est l'heure du repas, alors il faut prendre une injection d'insuline. Si en revanche le taux de sucre est trop bas, alors le diabétique doit manger du sucre. Au fond, les diabétiques de type 1 sont très proches des économistes. Ils passent leur temps à analyser des variations, des dynamiques, soit de la glycémie pour les diabétiques, soit du marché pour les économistes, tout en se référant constamment à un équilibre qui ne se réalise jamais. Cette gestion du diabète suppose donc deux catégories de soins, du matériel pour mesurer sa glycémie et du matériel pour injecter l'insuline. Et il existe dans le monde quatre grands laboratoires pharmaceutiques qui produisent ce type de traitement. L'entreprise Sanofi en France, la firme danoise Novo Nordisk et enfin deux compagnies américaines, Eli Lilly et Abbott. On parle en économie d'oligopole pour désigner ce genre de situation où un petit nombre d'entreprises se partagent un marché en particulier. Et leurs revenus sont très importants. Plus de 33 milliards d'euros pour Sanofi, 20 milliards de dollars pour Lilly et Abbott, et enfin 15 milliards d'euros pour Novo Nordisk. Tous ces chiffres sont issus de leur rapport financier annuel pour 2016. Le diabète n'est pas leur seul domaine d'intervention, mais c'est celui qui leur rapporte le plus. Pourquoi de tels revenus ? Premier élément de réponse, le diabète est une maladie incurable pour l'instant. Les malades passent leur temps à consommer les mêmes soins toute leur vie, ce qui assure au labo des ventes et des revenus réguliers. Deuxièmement, les prix des produits sont particulièrement élevés. Prenons juste un exemple, la Lantus vendue par Sanofi. La Lantus est une insuline lente, c'est-à-dire que son action dure 24 heures et accompagne le métabolisme du corps dans ses besoins quotidiens. En France, la Lantus est facturée à 53 euros, entièrement remboursée par la Sécurité sociale pour tous les diabétiques. Ce prix a été décidé il y a 15 ans, au moment de la mise sur marché de ce produit, au terme de négociations entre Sanofi et les autorités sanitaires. L'objectif de ces négociations est d'arriver à trouver un compromis entre une institution publique qui cherche à rembourser des soins indispensables pour un coût modeste et un industriel qui cherche à faire des profits. Le plus simple serait de mettre un prix légèrement supérieur au coût de production du médicament. Oui, mais les autorités publiques ne connaissent pas les coûts de production des industriels. Et surtout, ces coûts doivent aussi prendre en compte toutes les dépenses d'innovation et de recherche qui ont permis de trouver une nouvelle molécule ou un nouveau traitement. Ce calcul n'est pas simple du tout, car ce processus est long, coûteux et très risqué. C'est un point sur lequel insiste Éric Bazelag, joint par téléphone. Il est le directeur des affaires économiques du LEM, les entreprises du médicament. Le LEM est une organisation professionnelle qui représente et défend les laboratoires pharmaceutiques. Pour le dire autrement, le LEM est le grand lobby des laboratoires pharmaceutiques en France.
Je voudrais juste vous citer un chiffre. Quand un industriel a fini de développer une molécule anticancéreuse, c'est-à-dire qu'il a fait toutes les études cliniques, ça dure 10 ans, phase 1, phase 2, phase 3, quand il arrive à la fin de sa phase 3, juste avant de mettre sur le marché, il a encore 50% de chances que son étude soit négative. 50% de chances de ne jamais arriver sur le marché tout au bout de ce parcours d'investissement qu'il aura vécu pendant 10 ans, pendant lequel il n'aura fait qu'investir, que dépenser de l'argent, sans même pouvoir encore rentabiliser sa molécule. Vous voyez, c'est ça le modèle économique.
Pour lui, deux arguments justifient un prix élevé. Premièrement, les coûts d'innovation onéreux et risqués, et deuxièmement, bien sûr, l'efficacité thérapeutique du médicament. Sur ce dernier point, les autorités publiques mènent des expérimentations pour évaluer l'intérêt thérapeutique et économique de chaque médicament. C'est ce qu'on appelle la SMR, c'est-à-dire l'amélioration du service médical rendu. Sauf que les deux arguments de l'innovation et du service médical rendu sont de plus en plus contestés au cours des années, comme le rappelle Bertrand Burgala.
Pour revenir à Sanofi, Sanofi a fait croire que c'était la seule insuline qui pouvait tenir 24 heures et donc prendre en charge les besoins du métabolisme. Parce que c'est ça l'idée des insulines lentes comme ça. Ça s'est développé surtout à partir des années 90. Il y a eu un schéma qu'on appelle basal bolus où il y a une insuline qui prend en charge les besoins du métabolisme qui ne bouge peu, qu'on mange ou pas. Et puis après, on fait des injections au fur et à mesure des besoins et des repas. Et donc la Lantus, ils ont fait croire ça et ils ont obtenu un remboursement supérieur de 50% à celui de leur concurrent. Il se trouve que depuis 2007, officiellement, l'ASMR, l'amélioration de service médical rendu sur la Lantus, est nulle, est inexistante.
Pour résumer, la Sécurité sociale française rembourse depuis 2003 un produit qui n'apporte rien de plus par rapport au produit précédent et à un prix 50% plus élevé.
C'est une blague ?
Avec, cerise sur le gâteau, un brevet qui empêche la concurrence de commercialiser des produits similaires. En 2016, l'État français a déboursé au total 224 millions d'euros pour la Lantus, selon les chiffres en open source de l'assurance maladie. C'est le sixième médicament qui a coûté le plus cher en remboursement de soins pour l'assurance maladie en 2016. Mais comment Sanofi a-t-il réussi à faire croire en 2003 que son produit était une véritable avancée dans le soin du diabète ? Pour comprendre cela, il faut regarder du côté des dépenses de marketing et de communication. En réalité, les labos pharmaceutiques ne misent pas tout sur l'innovation. Leurs dépenses de recherche ne représentent que 15% de leur chiffre d'affaires en moyenne pour les 4 entreprises. Mais il y a d'autres dépenses importantes, comme le versement de dividendes, c'est-à-dire de revenus directement versés aux actionnaires. Là aussi, entre 10 et 15% du chiffre d'affaires selon ces 4 firmes. Mais surtout, les dépenses de marketing représentent 30% de ce chiffre d'affaires. Concrètement, ça veut dire que le remboursement des médicaments ne finance pas seulement l'innovation, il finance le versement de dividendes à un niveau presque égal et surtout, il finance les coûts de marketing et de communication qui sont à un niveau 2 fois supérieur. Car c'est l'une des clés de la réussite, convaincre les autorités, les médecins et les malades de l'utilité et de l'efficacité de leur traitement. Et ces dépenses de marketing permettent toutes sortes de pratiques de lobbying. Premièrement, organiser des conférences pour présenter leurs produits. Deuxièmement, payer des billets de transport, des repas, des nuits d'hôtel à tous les médecins invités à ces conférences. Troisièmement, payer des visiteurs médicaux qui font le tour de la France pour vendre leurs produits dans des hôpitaux, des cabinets, des pharmacies. Quatrièmement, recruter et payer généreusement des personnalités médicales et politiques. C'est la pratique dite des portes tournantes. Avec par exemple des anciens ministres de la Santé français qui ont travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques, comme Philippe Douste-Blazy, Roselyne Bachelot-Narquin, Elisabeth Huber, etc. Cinquièmement, rémunérer des professeurs reconnus qui ont parfois des positions importantes dans les autorités sanitaires. Les liens entre autorités sanitaires et laboratoires pharmaceutiques sont donc nombreux. Cette pratique a un nom en économie politique. Il s'agit de la capture de la réglementation. Ça désigne la capacité des industriels à s'insérer au cœur des instances de réglementation. Anne Chailleux, présidente du Forum Indep, association de lutte contre les conflits d'intérêts dans le secteur sanitaire, nous explique à quel point ces pratiques de capture sont répandues.
Par exemple, actuellement, il y a vraiment un gros effort qui est fait depuis plus de 10 ans par les laboratoires pharmaceutiques, mais au niveau mondial, ce n'est pas simplement un effort au niveau français, pour déréglementer finalement l'autorisation de mise sur le marché. Alors, leur effort consiste à dire qu'on va demander de moins en moins de preuves d'efficacité et de sécurité avant la mise sur le marché et qu'on va reporter après la mise sur le marché, la fourniture de cette preuve. Alors l'argument avancé, c'est qu'on aurait là des données en vie réelle qui seraient soi-disant de meilleures, plus pertinentes ou de meilleure qualité que des données issues d'essais cliniques. Alors d'un point de vue scientifique, c'est totalement faux. Mais par contre, d'un point de vue économique, on voit tout de suite l'intérêt, c'est que ça permettrait de mettre sur le marché peut-être 3-4 années plus tôt les mêmes produits et surtout d'avoir une beaucoup plus grande prévisibilité finalement de l'autorisation de mise sur le marché qui est déjà pour autant presque une formalité aujourd'hui puisqu'on est au-dessus de 95% d'AMM accordés par les agences du médicament. Donc finalement c'est plus vraiment un filtre aujourd'hui puisque les laboratoires arrivent finalement à toujours fournir un niveau de preuve suffisant pour les agences. Les agences ont beaucoup baissé en fait leurs exigences sur ces 10 dernières années environ.
Si on revient à notre exemple du diabète, Sanofi en tant que firme française a une longueur d'avance à ce petit jeu. Elle connaît bien les rouages de nos autorités sanitaires. Par exemple, la Haute Autorité de Santé, qui a pour charge d'évaluer les produits de santé, l'organisation des soins ou encore les pratiques professionnelles. Il faut dire que les négociations sur les prix des médicaments sont très peu transparentes, comme nous l'explique Anne Chailleux.
Effectivement, c'est une structure qui est très très opaque, qui négocie, c'est des négociations finalement de marchands de tapis pour alors, obtenir un prix sur une molécule, mais peut-être compensé par une baisse sur une autre. Il n'y a vraiment pas de règles claires là-dessus et surtout rien ne filtre, donc on ne sait pas du tout quels sont les accords qui sont signés.
Dans ce rapport de force que constituent les négociations en France, Sanofi a 2 cartes dans sa manche. Tout d'abord, le fait de posséder des usines en France. Sanofi peut faire du chantage à l'emploi en disant « Nous sommes prêts à maintenir des emplois en France à condition d'avoir quelques concessions, par exemple sur le prix de remboursement de nos produits ». Sauf que ça n'empêche pas Sanofi de diminuer le nombre de salariés en France. Moins 5000 postes de 2008 à 2014 et un nouveau plan social a été annoncé récemment avec la suppression attendue de 1000 postes en 2018. Ensuite, deuxième avantage pour Sanofi, ses liens avec le monde médical français. Et on en vient là à la question fondamentale de l'indépendance des experts. Est-ce possible de conserver une analyse indépendante tout en étant rémunéré par des labos? Pour Anne Chailleux, la réponse est claire.
Ce que dit la science, c'est que non. Ça a été amplement démontré par quantité d'expériences en psychologie sociale. Un lien même faible a une réelle influence, souvent non perçue par la personne elle-même. C'est souvent quelque chose d'inconscient, mais ça a réellement une influence sur ses choix, sur ses a priori et sur ses décisions. Alors, on n'est pas dans le domaine de la corruption, on est dans le domaine de l'influence, et c'est beaucoup plus efficace que la corruption, parce que la corruption, ça se voit. Si on vous met une enveloppe devant les yeux en vous disant « voilà, c'est cette enveloppe contre telle décision », à peu près 100% des personnes vont dire non. Bon, il y a toujours quelques pommes pourries qui vont accepter, mais c'est rarissime les personnes qui acceptent la corruption franche. En revanche, l'influence, c'est simplement de la flatterie, c'est vous êtes le meilleur spécialiste dans votre domaine, on a absolument besoin de vous pour une étude, alors qui peut être totalement futile, c'est pas grave, on va le rémunérer, on va le rencontrer très régulièrement, et à force, comme je disais, les éléments de langage vont être adopté finalement par le leader d'opinion, et sans s'en rendre compte, il va finir par adopter le vocabulaire, la structure de pensée, les positions du laboratoire pharmaceutique, et devenir finalement le vendeur du produit.
Sanofi a bien profité des règles du jeu, mais la rente commence à prendre fin, car le brevet de la Lantus est arrivé à terme. Les concurrents peuvent donc maintenant produire des génériques. Réaction de Sanofi, la sortie d'une version améliorée de leur insuline lente, appelée la Toujeo. C'est ce qu'on appelle un MeToo, c'est-à-dire un médicament très semblable au précédent, mais légèrement amélioré et permettant de déposer un brevet. Sauf que sur ce coup, la Haute Autorité de la Santé n'est pas dupe, et l'amélioration de service médical rendu a été estimée inexistante en 2015, avec un prix de remboursement baissé à 45 euros. L'innovation semble au point mort chez Sanofi, comme si la rente de la Lantus les avait anesthésiés. Éric Bazelac estime quant à lui que l'époque reste très innovante, mais avec un partage des tâches.
Il faut bien comprendre que le modèle de l'industrie pharmaceutique, avec des grosses multinationales qui avaient des centres de recherche intégrés, qui produisaient donc de l'innovation, qui découvraient de nouvelles molécules, qui les développaient et qui ensuite les mettaient au monde et les promouvaient, ce modèle-là, il est dans notre dos aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on a bien vu, et d'ailleurs c'était une prédiction de Schumpeter qui date pas d'hier, hein, y a un effet de taille qui a joué très défavorablement dans l'industrie pharmaceutique, où plus les industriels ont grossi, pour faire un peu caricatural, et moins ils sont devenus productifs en matière de recherche. C'est un mouvement qu'on connaît bien, cet effet de taille. Et ce que vous observez depuis quelques années, c'est que ce sont les start-up qui sont à l'origine, évidemment, des découvertes intéressantes. Et donc, l'évolution du modèle s'est faite de telle manière qu'est venue s'interposer entre la découverte, qui est souvent la recherche, donc, qui est souvent le fait des académiques, hein, et le développement, qui est souvent, pour ne pas dire tout le temps, le fait des industriels, sont venus s'interposer des start-up. Voilà. Et ça, c'est le grand fait nouveau.
Arrivé à ce stade de l'analyse, le constat est assez cynique. Avec deux victimes, la sécurité sociale qui doit débourser de lourdes sommes et les malades qui ne voient pas beaucoup d'amélioration dans leur vie.
C'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé compare les traitements entre eux et attribue une note au nouveau traitement en fonction de la façon dont il se situe par rapport à l'arsenal thérapeutique déjà existant. Et actuellement, 80% des nouvelles molécules sont en amélioration du service médical rendu de niveau 5, c'est-à-dire le plus bas, et ça veut dire pas de progrès.
Les innovations semblent rares ces derniers temps.
Il nous faut des idées d'urgence, je répète, idées d'urgence.
Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu. Ça reste encore de l'intérêt des firmes de réaliser de vraies ruptures thérapeutiques pour gagner de grandes parts de marché. Pour illustrer ce propos, revenons à l'exemple du diabète. Il y a une innovation qui a bouleversé le secteur depuis 3 ans. Ça concerne la mesure de la glycémie. Avant, les diabétiques devaient se piquer le bout du doigt, faire sortir une goutte de sang pour la déposer sur une bandelette connectée à un lecteur. Désormais, ce geste est appelé à disparaître, avec le freestyle libre, adopté par Bertrand Burgala.
Mais là, ils ont mis le paquet, ils ont fait un produit qui est bien foutu, qui nous change la vie parce que ça donne un rapport avec notre corps. Disons que pour simplifier, on peut regarder notre glycémie aujourd'hui, enfin c'est pas notre glycémie mais le taux de glucose, puisque c'est plus pris dans le sang mais dans les cellules de la peau. Il y a un filament qui rentre dans la peau, un petit patch qui dure 2 semaines, et on a un petit lecteur qu'on place sur le patch et qui nous permet de regarder ça comme on regarde l'heure. Et on peut se baigner avec, ce qui n'est pas le cas avec une pompe à insuline, par exemple. On peut le faire à travers les vêtements. Pour les parents, c'est extrêmement rassurant parce qu'ils n'ont plus à réveiller leurs enfants la nuit en ayant peur qu'ils fassent une hypoglycémie. Ils peuvent scanner le truc dans leur sommeil. Voilà, c'est un grand progrès.
Ce système de capteurs et de lecteurs développé par le laboratoire américain Abbott est si facile et efficace que de nombreux diabétiques acceptaient de payer 130 euros par mois pour se procurer ce traitement. Au final, après de longues négociations, le remboursement est désormais acté depuis juin 2017 à un prix légèrement inférieur. Cette innovation radicale permet d'illustrer l'idée que le marché du diabète reste un marché potentiellement innovant malgré les faibles incitations. Certaines entreprises dominantes ont tendance à vivre de leurs rentes apportées par quelques brevets et à miser sur la capture de réglementation pour la conserver, tandis que d'autres peuvent jouer le rôle de challenger en misant sur de vraies ruptures thérapeutiques. Ce qui laisse quelques germes d'espoir pour les malades, notamment en ce qui concerne une possible guérison.
Et je suis persuadé que non seulement il y aura des traitements intéressants, mais je pense qu'on va finir par vaincre le diabète et que ça ne viendra pas nécessairement d'où on l'imagine. Et peut-être comme l'insuline n'a pas été inventée par un diabétologue, je pense que celui qui va apporter la vraie solution à la guérison du diabète, qui est a priori dont on ne parle jamais, mais qui pourrait être un véritable objectif, ne sera probablement pas un diabétologue.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabac produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galigani, coordonnée par Laura Cuissard. Je voudrais remercier Marine Rowe qui a apporté une aide si précieuse pour cet épisode. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, sur Instagram et Facebook sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !